Au cours des dernières années, on a vu en salle de classe apparaître les badges numériques, les points d'expérience et les jeux d'évasion. Même si les mécaniques de jeu sont pas nouvelles en éducation, elles semblent créer un certain engouement, du moins chez les étudiants. Mais au-delà du plaisir, comment s'assurer que la ludification sert vraiment les objectifs d'apprentissage? Autrement dit, que c'est pas seulement du crémage à gâteau. Même si la ludification compte aujourd'hui des adeptes, elle doit encore se battre contre plusieurs préjugés, particulièrement en enseignement supérieur. Dans cet épisode, on démystifie cette approche pour comprendre ses forces et ses limites, mais surtout pour savoir comment l'intégrer de façon réfléchie dans notre pratique de CP.
Les beaux rôles avec Géraldine Lussier.
Pour en parler, je rejoins mes collègues dans le cadre de porte, Marie-Noël Corriveau-Tendland, CP au Cégep de Lévis, et Alexandre Dalpan, CP à l'Université Laval. Bonjour!
Bonjour!
Allô!
Mon premier contact avec la ludification pédagogique a été comme prof. J'ai essayé de créer des activités d'apprentissage sous forme de jeu. Il y a eu des activités qui ont quand même été un succès. Il y avait une belle réception, mais j'avoue que parfois, c'était pas très spectaculaire comme résultat, puis c'était pas du tout proportionnel aux efforts déployés. Mais la terminologie comme telle, ça a plus été comme CP, que j'ai entendu parler. J'ai assisté à des formations là, sur le sujet. Toi, Alexandre?
Ben moi, je me souviens assez bien de quand date cette rencontre avec le troisième type, parce que j'appelle ça comme ça, parce que la ludification, c'est... En enseignement, c'est considéré comme un extraterrestre pédagogique encore, selon moi. Mais bref, c'était dans mon DESS en enseignement collégial, puis c'était une séance de la session. Puis la chargée de cours avait utilisé un outil numérique particulier, Geniali, pour ne pas le nommer, je ne sais pas si vous le connaissez,
oui.
Quand même connu, pour nous démontrer l'intérêt de la ludification en enseignement supérieur. Puis depuis, j'ai vraiment eu une espèce de flamme qui a pris là-dessus. J'ai adoré le concept, puis depuis, je l'enseigne ou j'essaye de l'enseigner dans les formations que je donne, en saupoudrant un peu tout ça à droite à gauche dans mes cours. Ou dans les ateliers. Puis je dis pas que c'est un succès à chaque fois, mais tu sais, perso, j'ai plus de fun à enseigner de cette façon-là. Puis c'est peut-être parce que ça me rappelle mon enfance avec les jeux vidéo, sûrement. Et quelque chose.
Alors, mon premier contact, moi, au collégial, avec le concept de l'éducation pédagogique, c'est comme conseillère pédagogique répondante locale Performa, dans le fond, où j'ai été invitée à commenter une formation non créditée qui allait être mise en ligne sur la ludification. Donc, j'ai vraiment plongé, découvert, approfondi le concept. Et là, ça m'a comme rappelé que dans ma pratique enseignante, qui date d'une autre époque, là, carrément, je faisais parfois de la ludification pédagogique, pas mur à mur, évidemment, mais je repense entre autres à une activité dans mon cours de monde contemporain en 5e secondaire où je plaçais les élèves vraiment en situation de jeu, où ils devaient échanger des items entre eux, puis ils ne savaient pas exactement de quoi il était question, mais le jeu était fait là, de sorte qu'ils découvrent en bout de piste, au bout de l'activité finalement, de quoi il était question. Donc, on travaillait vraiment sur les inégalités dans le monde, les relations entre les États, puis tout ça. Et vraiment, là, les élèves étaient très, très engagés dans l'activité, très, très investis des missions qu'on leur donnait, oui. Au point que des fois, à la fin de l'activité, quand ils découvraient de quoi il était question, il y en a qui étaient un peu découragés de leur propre comportement dans l'activité. Donc, ça, c'est les dangers, peut-être, de la ludification. Oui, c'est ça, tout à fait.
Donc, c'est vraiment un concept utile pour rendre l'apprentissage plus dynamique et engageant, si on veut. Mm-hmm. Puis, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça peut dédramatiser l'erreur quand on apprend par le jeu.
Ah oui,
quand, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, c'est sûr que je trouve ça intéressant, l'apprentissage par l'erreur. T'sais, je trouve que le jeu amène cette possibilité-là, puis je la défends beaucoup dans mes approches pédagogiques. Puis ça, c'est un bon point. T'sais, je vois que la ludification, elle est utile, puis elle est même efficace en tant que tel, pour aller améliorer la rétention et l'engagement des étudiants dans les cours. Ça ne va pas forcément améliorer les résultats, certaines études le montrent, mais la rétention est renforcée. Puis bien sûr, quand on aime ça, ça procure beaucoup plus de plaisir à enseigner, et ça transparaît dans la classe, c'est sûr.
En effet.
Vraiment, puis je vais abonder dans le même sens qu'Alexandre, en fait. J'ai accompagné une prof ici au Cégep, une prof de bio, dans le fond, qui a ludifié une activité là, sur la reconnaissance des groupes sanguins. Là. Effectivement, son constat, après avoir mis en place cette activité ludifiée, là, c'était comme une espèce de speed dating de groupes sanguins. Là. En tout cas, bref, c'était vraiment intéressant. Mais effectivement, les résultats n'étaient pas nécessairement meilleurs aux tests qui suivaient. Mais par contre, de recroiser des étudiants après dans les corridors, de jaser de ça avec eux, la rétention était vraiment augmenter et évidemment la motivation à faire.
Souviens de l'activité.
Mais oui, vraiment.
Mais voyez-vous certains défis qui pourraient survenir quand on accompagne des profs qui veulent ludifier leur cours?
Le temps de développement, c'est toujours la carte qui est sortie en premier. Est-ce qu'on est en train de mettre en péril le point focal, là, t'sais, est-ce que ça vaut la peine versus la plus-value pédagogique que ça va amener? Ça, c'est sûr que c'est toujours un grand questionnement chez les profs qui pensent à la ludification. C'est peut-être le premier frein aussi à ludifier davantage. Et ludifier, oui, mais jamais au péril de l'alignement pédagogique, de la cohérence, puis de l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Ça, c'est sûr.
Oui, okay. C'est certain. Ben, t'sais, en plus de ça, que c'est deux points importants, comme tu dis, il y a aussi le fait que faire de la ludification, ça demande à sortir des sentiers battus. Tu dois faire les choses différemment, finalement. Puis, c'est pas toujours évident, puis c'est pas tout le monde qui va vouloir ou pouvoir le faire. Moi, je l'ai vu dans les yeux des profs avec qui j'ai échangé en parlant de ludification. Puis, tu sais, je leur montrais des exemples d'outils numériques. Parce que, je veux pas, j'étais sceptique, c'était ma bébelle à moi. Mais ça permettait de ludifier les cours. Mais c'était difficile d'intégrer ça dans leurs cours sans avoir des changements assez importants dans leur structure de cours. Le temps est important, mais tu sais, l'envie aussi de tout défaire, reconstruire, c'est pas toujours donné à tout le monde. Puis, il y a un autre point qui me vient à l'esprit, c'est quand même qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que la structure organisationnelle ou la culture interne de l'établissement, des fois, est peu adaptée au développement de la ludification dans l'enseignement, surtout supérieur. Puis, comme tu le disais tantôt, justement, Géraldine, c'est mal vu en enseignement supérieur et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'il y a un gros potentiel derrière cette approche pédagogique, selon moi.
Ouais. Je pense que ça peut sembler complexe pour certains profs. Il est possible d'apporter justement juste des petites modifications sans tout changer l'ensemble du cours. Donc, il faut y aller petit à petit, se familiariser avec des outils simples pour commencer.
Mm-hmm. Ouais, vraiment.
Merci pour cette belle discussion. À bientôt.
Merci, à la prochaine.
Merci.
Je reçois un duo passionné. Gabrielle Bilodeau, conseillère en pédagogie universitaire de l'Université Laval, et Simon Côté-Massicotte, conseiller à l'intégration des technologies éducatives de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Gabrielle évolue dans le domaine de l'éducation depuis une dizaine d'années et s'est notamment impliquée dans le développement d'applications de jeux et de vidéos éducatifs. Toujours en quête de nouveaux défis, elle s'est récemment lancée dans l'aquarelle et le paddleboard avec l'ambition audacieuse de peindre directement sur l'eau. Bonjour Gabrielle.
Allô Géraldine.
C'est un beau défi.
Oui, mais il faut encore que je travaille ma stabilité parce que sinon ça va être littéralement de la peinture à l'eau.
D'accord. De son côté, Simon a enseigné l'anglais au collégial durant 10 ans, a été rédacteur chez Éductive et preuve de sa créativité, il a même imaginé un module de jeu de rôle d'horreur inspiré de l'histoire de Rouyn-Noranda. Bonjour Simon.
Bonjour Géraldine.
Intriguant ce jeu-là?
Oui, c'est un module pour le jeu L'Appel de Cthulhu, puis il est disponible en ligne si les gens sont curieux.
Tu piques ma curiosité, je vais aller y jeter un petit coup d'œil. On va d'abord commencer avec Gabrielle. Qu'est-ce que tu entends par ludification?
Oui, bien en fait, pour moi, la ludification, c'est l'idée d'aller utiliser des éléments qui appartiennent à la conception du jeu, mais dans des contextes qui sont à la base poludiques, fait que par exemple un cours universitaire. Fait que, tu sais, on va souvent entendre parler de système de points, de badges, des défis. Parfois aussi, on va entendre parler de narration, progression, des éléments d'hasard puis de récompense. Fait que tout ça, tu sais, ces éléments-là qu'on va aller ajouter, ça va être dans le but de pouvoir promouvoir l'engagement chez les personnes étudiantes, de motiver l'action puis d'améliorer l'apprentissage des personnes étudiantes. Après ça, aussi, la ludification, mais je vois ça un peu comme un spectre, c'est-à-dire qu'on peut intégrer des éléments de jeu à différents degrés. Moi, j'aime ça comparer vraiment ce spectre-là à une tasse de thé. C'est-à-dire que notre activité pédagogique de base, c'est un peu comme notre tasse avec de l'eau chaude. Et la ludification, bien, c'est la poche de thé qu'on va venir plonger finalement dans l'eau chaude pour bien, plus ou moins rapidement ou plus ou moins longtemps. Fait que, on peut juste comme faire une petite trempette puis avoir une légère infusion qui serait plus comme une touche discrète de ludification si on veut. Ou encore, bien, on peut la laisser tremper plus longtemps pour aller intensifier la saveur puis jusqu'à carrément créer là, une expérience qui est immersive pour les personnes étudiantes. Fait que vraiment, on va venir s'appuyer finalement sur les principes qui rendent les jeux motivants. Mais tu sais, ludifier, ça ne veut pas non plus dire de transformer un cours entier en quelque chose comme un jeu vidéo ou un escape room. Tu sais, c'est vraiment le but, c'est d'utiliser ces mécaniques de jeu-là pour aller soutenir la pédagogie puis encourager l'engagement des personnes étudiantes parce que ben, quand on est engagé, quand on vit des émotions positives au moment d'apprendre, ben, on retient beaucoup mieux l'information.
Simon, est-ce qu'il y a différentes approches dans la ludification?
Oui, en fait, il y a comme deux écoles de pensée ou deux types de ludification. La première, c'est la ludification structurelle. Ça, c'est un type de ludification dans lequel on va seulement ajouter une couche ludique par-dessus une activité qui n'a pas été modifiée. Une image qui est très souvent utilisée pour parler de ce type de ludification-là, c'est de mettre du chocolat sur du brocoli. C'est que tu rajoutes une couche le fun sur quelque chose qui ne l'est pas et c'est vraiment quelque chose qui est structurel essentiellement. et qui ne dénature pas l'activité elle-même. Ce type de ludification-là, c'est, admettons, quand on ajoute des badges pour la complétion d'un module de cours, ou bien non, quand il y a un système de pointage, quand il y a un tableau des mineurs, tout ça où ce qu'on, il n'y a pas de modification de l'activité, mais qu'il y a l'ajout d'une couche par-dessus, c'est la ludification structurelle. De l'autre côté, il y a la ludification de contenu, où ce que là, l'activité elle-même va être modifiée afin de devenir plus ludique. Là, on va vraiment chercher à intégrer dans l'activité elle-même des mécaniques de jeu, comme des contrôles du temps, de l'espace qui peut être utilisé, des notions de hasard, des trucs comme ça. De cette manière-là, là, ça serait de faire une recette plus intéressante avec notre brocoli plutôt que de juste rajouter de quoi par-dessus, là. Donc, c'est vraiment de transformer la nature de l'ingrédient de base qui est notre activité d'enseignement apprentissage.
J'aime beaucoup les analogies avec la cuisine. Merci, Simon. Ça me permet de bien comprendre. Gabrielle, quels sont les avantages et les défis spécifiques de chacune des approches?
Oui, ben pour ce qui est de la ludification structurelle, ben c'est certain que comme on modifie surtout l'organisation du cours sans toucher au contenu, donc en laissant le brocoli intact, ben c'est généralement plus rapide, plus facile à mettre en place aussi. Puis ça permet parfois de créer un effet de nouveauté qui va être attrayant là, pour les personnes étudiantes. Par contre, si on fait juste ça, ben, tu sais, la motivation peut aussi s'essouffler, surtout si les personnes étudiantes travaillent principalement à aller accumuler des points plutôt que vraiment se concentrer sur l'apprentissage. Puis, ben, au final, la ludification perdrait un peu de son sens. Fait que, tu sais, si c'est mal conçu, ça peut ressembler un peu à une simple mécanique de récompense qui n'aurait pas vraiment d'impact réel sur l'apprentissage. Fait que c'est d'où l'importance de savoir, tu sais, de prendre conscience de la raison pour laquelle on décide d'employer cette tactique-là, cette approche-là. Puis sinon, ben, par rapport à la ludification de contenu, ben, comme on transforme la façon dont les concepts sont enseignés, ben, on favorise vraiment un engagement qui va être plus durable, un apprentissage qui va avoir des chances d'être plus profond. Fait que des personnes étudiantes peuvent être motivées par le défi, peuvent avoir le plaisir d'apprendre, plutôt que par avoir juste des récompenses un peu plus superficielles, donc aller chercher la motivation plus extrinsèque.
On se tente du chocolat, en fait.
Oui, exactement. Donc, vraiment, le petit chocolat par-dessus, qu'il y ait le fun, mais à un moment donné aussi, on peut avoir mal au cœur. La ludification de contenu, elle peut aussi permettre justement d'aller déconstruire, de morceler des concepts qui sont plus complexes à la base, puis de les rendre plus accessibles aux personnes étudiantes. Par contre, ben, tu sais, je dis tout ça, puis ça a l'air vraiment le fun, mais il y a quand même son lot de défis, c'est-à-dire que bien, c'est certain que ça demande plus de réflexion, une réflexion plus profonde, puis plus de temps pour intégrer la ludification au contenu comme tel. Donc, c'est de voir un peu ce qu'on cherche à accomplir comme objectif pour être capable d'employer le meilleur moyen d'y arriver.
Oui, bien, si je peux rebondir là-dessus juste un peu, en fait, effectivement, ça prend une réflexion qui est plus profonde. Et c'est souvent là que le CP va avoir son rôle à jouer parce que quelqu'un qui voudrait mettre en place de la ludification structurelle, je veux dire, il peut aller vers un télévoteur ou une application clé en main que, je veux dire, l'activité est déjà créée pour toi. Il n'y a pas grande réflexion à faire à ce niveau-là. Par contre, quand on veut transformer l'activité d'apprentissage elle-même, qu'on veut vraiment changer l'expérience d'apprentissage, ben là, ça prend une réflexion qui est plus profonde et c'est là que de réfléchir à deux cerveaux, ça peut être grandement bénéfique.
Absolument.
Simon, pourquoi ça peut valoir la peine d'investir du temps dans la ludification de contenu?
Oui, en plus de ce que Gabriel a déjà soulevé à propos du fait que ça allait encourager la motivation qui est intrinsèque, si je peux juste ajouter un peu de détails par rapport à ça, c'est que le jeu ou une activité ludifiée, c'est une très bonne manière d'encourager des moments de flow ou d'expérience optimale. Ça, en fait, le flow, c'est un concept qui a été théorisé par Csikszentmihalyi, qui est un psychologue hongrois. Et c'est des moments pendant lesquels on disparaît complètement et entièrement dans une activité. Donc, quand on parle de la notion du temps, quand on parle de la notion d'espace, quand que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est l'activité qu'on est en train de faire, bien, on sait qu'on est en train de vivre un moment de flow. Et c'est des moments qui sont excessivement satisfaisants. Le jeu, en fait, ou les activités ludifiées sont une très bonne manière d'encourager ces moments-là chez l'étudiant. Et ça le fait, premièrement, en offrant un défi qui est adapté aux compétences de l'étudiant. Donc, quand que l'étudiant va travailler sur quelque chose qui est un tout petit peu en dehors de sa zone de confort, ce qui ressemblerait peut-être à la zone proximale de développement de Vygotsky, il va y avoir les conditions en place pour tomber dans ce mode de flow-là, cette expérience optimale-là. Même chose pour le fait de recevoir de la rétroaction instantanée. Quand on joue à un jeu, quand on fait une activité qui est ludifiée, généralement, il y a une rétroaction constante. On sait si on se rapproche de la victoire ou si on se rapproche de la défaite. Donc, il y a vraiment une progression qui est visible, qui peut être ressentie. Et ces deux éléments-là ensemble créent les conditions optimales pour la création de ces moments de flow puis ces expériences très satisfaisantes-là pour l'étudiant.
Simon, est-ce qu'il y a des avantages à utiliser le numérique pour ludifier une activité?
Oui, bien, le plus gros avantage que je peux percevoir, c'est vraiment l'idée qu'on peut créer des activités qui sont entièrement asynchrones. Il y a plusieurs suites de logiciels qui existent en ligne qui permettent de créer des jeux et il y a même des communautés de pratique qui ont été développées pour ça. Mais une fois que ces jeux-là sont développés, je veux dire, l'implication du prof ou de la personne enseignante est assez limitée. C'est quelque chose qui est clé en main pour l'étudiant et qui, une fois qu'il est créé, bien, je veux dire, ils sont complètement autonomes, ils peuvent compléter l'activité par eux-mêmes. Il y a aussi le fait qu'on peut créer des activités qui sont plus immersives, puisque le numérique permet d'utiliser du visuel, du son, des interactions plus flexibles. Donc, ça va créer des activités qui sont plus immersives, dans lesquelles c'est plus facile de disparaître. Et finalement, il y a beaucoup de formules clés en main qui sont disponibles en ligne. Il y a des suites de gestion de classe qui sont disponibles. Il y a les télévoteurs. Et ces deux types de logiciels-là viennent souvent avec des patrons qui sont essentiellement pré-remplis, qui réduisent le temps que ça peut prendre à mettre en place un système de récompense ou un système de points. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va sauver énormément de temps.
Un autre avantage aussi, des fois, d'aller avec le numérique, ça peut être de permettre de programmer des choses qui vont offrir plus de liberté aux personnes étudiantes. Donc, qui va permettre, par exemple, une progression personnalisée qu'on va avoir programmée à l'avance ou, tu sais, qui va permettre aussi différents choix d'activités. Fait que ça donne un peu plus d'autonomie. Mais par contre, je pense qu'avec la technologie, il faut faire ça intelligemment. Il faut réfléchir puis s'assurer que ce qu'on ajoute va avoir une valeur pédagogique puis que ça ne se ramassera pas à être un gadget numérique qui ne va pas vraiment avoir de lien avec l'apprentissage parce qu'à ce moment-là, bien, ça peut devenir plus une distraction que quelque chose d'utile. Puis aussi, bien, une autre chose, c'est que quand on fait du développement technologique, bien, ça peut être demandant en termes de ressources. Tout dépendamment de l'ampleur du projet qu'on a en tête, pour des projets plus gros, bien, ça pourrait être une bonne idée de faire un prototype qui va être non numérique, par exemple, carrément, donc qui va se faire en classe format papier ou matériel, ou de prendre faire juste une petite base là, numérique, mais vraiment, vraiment simple, avant d'investir davantage, puis avant d'aller plus loin, pour permettre de valider notre concept, de peaufiner notre idée, de s'assurer vraiment que ça fonctionne bien avant qu'on investisse beaucoup de ressources.
Pour terminer, Gabrielle, quel conseil donnerais-tu à un CP qui souhaite accompagner des professeurs dans une démarche de ludification?
Oui, mais si j'avais à donner 3 conseils, ce serait la première des choses de commencer vraiment par établir les objectifs d'apprentissage. Donc, comme la ludification doit servir l'apprentissage puis pas être un objectif en elle-même, c'est vraiment important de mettre ces objectifs-là au clair dès le début puis s'assurer ensuite que les mécaniques de jeu qu'on a choisies vont venir servir ces objectifs-là puis pas leur nuire parce que parfois, ça peut avoir l'effet inverse désiré. Fait que vraiment, mettre ça au clair. La deuxième chose, je dirais, bien, c'est un peu classique comme on voit un peu partout, qu'on entend souvent, c'est la théorie des petits pas. Donc, d'y aller vraiment progressivement. C'est-à-dire un peu qu'on va encourager la personne enseignante à tester quelques petits éléments simples avant d'en ajouter davantage ou avant vraiment de se lancer dans revoir un cours au complet. Par exemple, mon collègue Simon aime bien donner là, l'idée de commencer en utilisant des dés, donc juste vraiment d'intégrer des éléments d'hasard assez simples dans lesquels on jette 2 dés, combine des choses, voilà, on part avec ça. Donc, ça peut être un type d'exemple, puis d'encourager aussi une approche itérative. Fait que vraiment observer là, l'effet que ça va avoir sur les personnes étudiantes, puis d'ajuster en fonction de ce qui va bien, ce qui va moins bien, et reprendre à nouveau. Donc, de développer comme ça en progression. Finalement, mon dernier conseil, en fait, ce serait de tenir compte du style de la personne enseignante, puis des différents profils possibles aussi des personnes étudiantes. On n'est pas tout à l'aise avec les mêmes choses. Par exemple, si une activité va demander une animation où on joue un rôle, on se met un chapeau, on se déguise, bien, il y en a qui vont vraiment triper, qui vont trouver ça le fun, mais il y en a d'autres qui vont détester ça puis vraiment pas être à l'aise. Puis ça, ça va se ressentir. Donc, c'est pas de rendre service à la personne enseignante de la diriger vers quelque chose qui n'est pas son style. Puis du côté des personnes participantes, ben, tu sais, on a toutes aussi des préférences dans les jeux, dans les mécaniques qui vont venir un peu plus là, nous chercher que d'autres. Fait que, par exemple, il y en a qui vont préférer des mécaniques qui vont plus faire appel à l'aspect de compétition. Il y en a d'autres qui vont préférer plus l'exploration libre. Donc, d'en être conscient, de savoir, nous, c'est quoi nos préférences, puis d'être conscient des préférences que les autres pourraient avoir, mais ça va nous permettre aussi d'aller chercher le plus de personnes possible.
Je réalise que la ludification, ben, c'est peut-être pas si sorcier que ça. On peut y aller un pas à la fois, graduellement. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci beaucoup, Simon.
Merci à toi, Géraldine.
Oui, merci pour l'invitation. On ne sort pas vraiment souvent, fait que c'est le fun.
On n'est pas sortable.
La série balado « Les beaux rôles » est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lussier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noëlle Corriveau-Tendland. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.